Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Véronique Andrieux, directrice générale d'Action contre la faim. Véronique Andrieux, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors peut-être présentez-vous, quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivée à ce poste de directrice générale d'Action contre la faim? Qu'avez-vous fait auparavant, à la fois comme formation et comme profession?
Alors, j'ai 25 ans d'expérience dans l'humanitaire et le développement. J'ai travaillé essentiellement chez Oxfam pendant 15 ans. J'ai été directrice régionale à différentes reprises, en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et puis après en Amérique latine, Caraïbes. Après, je suis passée par d'autres structures, d'autres organisations. J'ai fait un peu de consultance aussi. Et puis, j'ai passé 4 ans au ministère des Affaires étrangères en Espagne. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle du policy, c'est-à-dire des politiques publiques pour...
À l'ambassade de France?
Non, c'était à Madrid, au ministère des Affaires étrangères, donc à la Direction générale des politiques publiques. Voilà, donc c'était une époque où l'aide espagnole était assez importante, et donc contribuait largement aux schémas multilatéraux. Et du coup, là, je me suis occupée de tout ce qui était efficacité de l'aide et cohérence de politique pour le développement.
Alors, vous êtes donc à la tête de Action contre la faim. En quelques mots, comment décririez-vous cette ONG dans l'espace français? Et quelle est sa spécificité?
Alors, je dirige un ACF depuis 2 ans déjà. C'est un grand privilège. Pour moi, c'est vraiment, c'est un moment absolument important, je pense, d'engagement, de porter en fait ACF plus loin, de l'adapter, de la préparer pour les enjeux humanitaires dont nous parlerons tout à l'heure. ACF est une ONG qui, l'année prochaine, aura 40 ans, qui travaille dans 50 pays. Son focus, en fait, c'est une approche multisectorielle pour lutter contre les causes et les conséquences de la malnutrition. Sous toutes ses formes. Et voilà, donc pour France, nous sommes un réseau international et nous travaillons notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Alors, les ONG, ce qu'on appelait le Mouvement Sans Frontières, est maintenant solidement établi. Il y a une sorte de période romantique. Et puis, un peu après, une remise en cause. Les ONG ont été prises pour cible, ce qui ne se passait pas auparavant, avec aussi une crise des vocations. Est-ce que aujourd'hui, c'est l'âge de la maturité pour les ONG et l'aide humanitaire?
Alors, je pense que l'aide humanitaire est à un moment charnière, vraiment un tournant. Je pense que un événement en fait qui a un peu cristallisé ça, c'est le sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul il y a 2 ans, qui était précédé par 2 ans de consultations larges de l'ensemble du secteur et qui a mis en fait en relief et a fait émerger des tendances très lourdes. Fortes qui sont là pour rester et qui vont façonner le nouveau paysage humanitaire de demain. Alors, est-ce que c'est un processus qui va en fait accoucher de quelque chose de vraiment durable et de quelque chose de vraiment transformateur ou pas? C'est ça tout la question qu'on se pose.
Quelles sont ces nouvelles tendances en quelques mots?
Alors, ces tendances, il y a d'une part les tendances externes et puis les tendances qui sont plutôt internes au secteur. C'est un secteur qui, depuis les années 50, a peu évolué, malgré déjà plus d'une décennie en fait, de
transformation. C'est quand même beaucoup développé. Ça n'a rien à voir, les budgets, le nombre de personnes, l'action et même la visibilité des ONG aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans.
Absolument. Le secteur a beaucoup cru. D'ailleurs, l'aide publique au développement a beaucoup augmenté. En termes généraux, l'assistance et l'aide n'ont jamais été aussi importantes, sauf que les besoins n'ont jamais été aussi importants aussi. Du coup, en fait, le gap, la différence entre les besoins et les moyens n'a jamais été aussi importante. Donc ça, déjà, c'est vraiment un constat. Il y a un sous-financement chronique dans le secteur. Et ça, ça se répercute dans la souffrance et la vulnérabilité et le manque de protection de beaucoup de personnes. Donc
Est-ce qu'on fait toujours une différence entre les ONG qui sont axées sur le développement et celles qui sont axées sur l'aide humanitaire? Est-ce que c'est toujours la summa division pour les ONG consacrées au Sud?
Alors justement, dans ces transformations qui sont en cours actuellement, il y en a plusieurs qui sont donc ces tendances lourdes dont on parlait. Une, c'est précisément celle que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nexus, pour choisir un nouveau mot, mais c'est une tendance qui est là depuis plusieurs années déjà. Et c'est justement ce lien entre le développement et l'action humanitaire. Comment ces cultures, ces approches et ces façons de travailler peuvent converger à partir d'un constat qui est que la nouvelle norme, ce n'est plus, comment dire, une situation de pauvreté sur laquelle il y a des pics de choc. Là, la nouvelle norme, ce sont des crises pérennes, ce qu'on appelle « protracted crisis », qui durent plus de 10 ans en moyenne et sur lesquelles s'inscrivent des chocs. Donc cette nouvelle norme change la donne, fait aussi que les crises sont plus urbaines, plus complexes. Elles se passent de plus en plus aussi dans des états dits fragiles et affectés par les conflits. Ce qui veut dire que l'agenda d'aujourd'hui, c'est l'agenda des ODD, les objectifs de développement durable, absolument, à remplacer, donc c'est l'agenda 2030, à remplacer l'agenda 2015, des objectifs de développement du millénaire. Et c'est un agenda foncièrement différent, parce que universel, parce que aussi avec cette idée de leave no one behind, c'est-à-dire de vraiment agir sur les plus vulnérables.
Ne laisser personne dehors, en retrait.
Personne, absolument. Et qui va s'inscrire, du coup, beaucoup moins dans des pays à rente moyenne, ou les fameux BRICSAM, et beaucoup plus sur ces États fragiles et affectés par les conflits. Ce qui veut dire que, naturellement, il y a, parce que les plus vulnérables dans des situations de conflit, clairement, les humanitaires sont amenés à jouer un rôle dans ces objectifs de développement durable.
Donc, en fait, ces frontières anciennes entre développement et aide sont en train, si ce n'est de s'effacer, d'être largement remises en cause.
Absolument, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années que c'est le cas, sous d'autres acronymes et d'autres, comment dire, un autre jargon. Là, il s'est renouvelé. Ce qui est important là, je pense, c'est qu'il y a un nouveau momentum politique, un vrai appétit, avec, ceci dit, des éléments de précaution à avoir en tête, notamment la question des principes humanitaires et du DIH, parce que ce nexus développement humanitaire, quand il se produit dans des situations de conflit, peut entraîner, peut entraîner des risques par rapport à la mise en œuvre des principes humanitaires.
Alors, dans la mesure où les ONG interviennent beaucoup plus dans des conflits et moins dans des situations calmes où il est question de creuser un puits, d'apporter de l'alimentaire, le danger aussi, c'est que ses membres sont de plus en plus pris pour cible. Et que, alors qu'il y avait une sorte d'immunité des acteurs humanitaires auparavant, vous devez régulièrement déplorer, et en tant que DG, c'est certainement une de vos préoccupations majeures, c'est la sécurité de vos équipes sur place.
Absolument, un des plus grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, c'est l'accès humanitaire et c'est la sécurité de nos équipes. Et c'est aussi la protection des civils sur les territoires où nous opérons. On constate une politisation de l'aide humanitaire, une instrumentalisation de l'aide à des fins diverses. C'est souvent lié à des objectifs géopolitiques ou bien des objectifs de sécurité, de militarisation de territoire ou bien de contrôle de migration, de déplacement de population. Tout ça, ça crée un contexte qui est aussi, comment dire, marqué fortement par un contexte de guerre globale contre le terrorisme, qui crée un contexte, comment dire, adverse et d'érosion des principes humanitaires, du droit international humanitaire et de la protection des civils. Ce contexte, c'est dans ce contexte que les ONG telles qu'ACF interviennent. Et c'est clairement quelque chose d'extrêmement inquiétant, je pense, une des tendances les plus préoccupantes, parce que, comment dire, l'espace pour le concept de civil est de plus en plus restreint et comment dire, évacué et remplacé par, en fait, partie en conflit. Ce qui veut dire que la mise en œuvre des principes humanitaires, tels que notamment la neutralité et l'impartialité, devient presque... enfin très compliqué dans ce type de contexte où un civil n'est plus nécessairement un civil, mais
parce
une partie en conflit.
Il est tout de suite un ennemi, et donc si vous venez à son secours, vous êtes également considéré comme un ennemi.
Absolument. Un exemple frappant de ça, c'est par exemple la législation ou les législations en vigueur au niveau de lutte contre le terrorisme, ce que nous appelons vulgairement, enfin, COTER. Ces législations, par exemple, criminalisent quelle que soit la forme d'assistance, même involontaire, sur quelque individu ou groupe considéré comme terroriste. Or, le DIH, les principes humanitaires sont, comment dire, très, ne font pas la différence entre les parties en conflit à partir du moment où c'est opéré de manière avec neutralité, impartialité et indépendance. Donc il y a une vraie tension entre ces différentes ces différents principes appliqués sur ce type de territoire.
Quels sont les terrains sur lesquels, pour une ONG, il est le plus difficile en termes de sécurité, d'accès aux victimes, d'intervenir ? Est-ce que ça se passe en Syrie, au Sud-Soudan ? Quelles sont les zones pour lesquelles il faut vraiment être extrêmement prudent ? Et est-ce qu'il y a des pays où vous avez renoncé à intervenir parce que ça serait trop dangereux pour vos équipes ?
Alors, nous avons des mesures de sécurité extrêmement sophistiquées. Mises en place, qui sont monitorées constamment. On a une unité, un service de sécurité spécifique et des postes de sécurité sur chacun des théâtres d'opération. Donc les mesures sont en place. Il n'y a pas, une aversion au risque, il y a une gestion du risque. Et le risque sécuritaire est notre principal risque. Nous avons, comme vous le savez bien, en tant qu'ONG, ce qu'on appelle le duty of care de notre staff, de nos équipes. Et du coup, c'est vraiment la
principale... Un devoir donc de faire attention à leur sécurité, c'est
Absolument, ouais. C'est la protection de nos équipes. Et, voilà. Et du coup, les mesures sont en place, le pilotage est en place. Mais il ne s'agit pas de tomber dans l'aversion du risque et de ne pas pouvoir mettre en œuvre notre mandat humanitaire. Donc l'idée, c'est de trouver des façons pour assurer que les populations affectées ont accès à l'aide humanitaire. Et parfois ça peut passer par ne pas nécessairement avoir une relation directe avec les travailleurs humanitaires. On a des cas où nous travaillons sous forme de remote management, de gestion à distance de nos équipes et de nos opérations et de nos programmes. Dans d'autres cas, nous travaillons à travers des partenaires locaux. Nous cherchons des manières pour pouvoir délivrer notre mandat malgré des conditions de sécurité absolument
Dans la période récente, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous avez renoncé pour ces raisons-là parce que cette mission n'aurait pas pu être remplie à intervenir ?
En ce moment même, pas à ma connaissance, nous sommes présents dans les théâtres sur les crises les plus terribles, que ce soit au Yémen, Lac Tchad, même en RCA où nous avons quand même des alertes sécu toutes les semaines. Alors ce que nous faisons, c'est que temporairement, par exemple, je me souviens il y a un an, au mois d'août dernier, nous avons évidemment, et ça arrive régulièrement, nous mettons nos équipes en hibernation et nous mettons nos opérations en suspens pendant un certain nombre de jours, parfois de semaines, jusqu'à ce que un risque très aigu, critique, soit sous contrôle.
Il y a eu un grand débat au début des années 2000 sur la répartition du rôle entre les ONG et les États apparaissant comme cyniques, réalpolitiques, les ONG empreintes de morale. Comment vous voyez l'articulation entre le rôle des ONG et l'État, et notamment, puisque vous êtes une ONG française, avec l'État français ?
Les ONG ont une relation, avec l'ensemble des gouvernements des pays où nous intervenons et pour la France évidemment aussi et d'autant plus puisque la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui du coup a une influence sur des crises majeures et sur la résolution politique et négociée des conflits. Du coup, nous avons une relation de ce que nous appelons dialogue de politique et influence. Nous cherchons à influencer la position française dans des auprès des espaces de prise de décision sur ces conflits majeurs, par exemple. Du coup, nous avons une relation d'indépendance. Nous sommes un acteur de la société civile française, de la société civile internationale. Nous définissons en tant que réseau du coup international des positionnements. Très souvent de manière collaborative avec les réseaux d'autres ONG internationales ou des ONG nationales qui travaillent sur certains pays. Ça a été le cas là tout récemment au Yémen, puis en Syrie évidemment. Et nous portons ces positionnements auprès du gouvernement français. Nous partageons aussi des informations, même de type opérationnel, pour expliquer quels sont les enjeux auxquels nous faisons face. C'est ainsi que nous portons des messages, par exemple, qui sont relativement, enfin, évidemment, sur le Yémen, des messages très liés au Yémen, mais des messages, par exemple, pour leur demander au gouvernement français de cesser la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, hein, dans le cas du conflit du Yémen, par exemple. Mais il y a d'autres types de messages, hein, du type, par exemple, d'avoir une exemption des ONG, des législations cotères, par exemple, ou encore une simplification du reporting, puisque aujourd'hui, il y a parfois une bureaucratisation et une complexification des systèmes de reporting qui est absolument, qui n'est pas nécessairement adéquate.
De façon générale, est-ce que vous êtes satisfaite des liaisons, des relations avec le Quai d'Orsay ?
Alors, nous avons une relation, je pense, saine. Nous sommes membres de la de coordination sud, hein, qui est l'espace qui regroupe l'ensemble des ONG en France. Nous sommes d'ailleurs chef de file, hein, de la commission humanitaire au sein de coordination sud. Et du coup, nous nous inscrivons tant dans des démarches collectives de secteur que au nom d'Action contre la faim pour pouvoir porter des messages au gouvernement. Nous avons l'écoute, l'oreille et attentive, et nous pensons que c'est de ce point de vue-là assez satisfaisant. Par exemple, la conférence nationale humanitaire qui a eu lieu le mois dernier a permis de lancer déjà la stratégie humanitaire de la République française qui prend en compte un certain nombre des pétitions, demandes et messages clés que le secteur des ONG avait porté auprès du ministère et aussi du Premier ministre et du Président. Donc je pense qu'effectivement c'est relativement satisfaisant, du moins sur le papier. Il y a eu des efforts aussi en matière de quantité de l'aide. Donc il y a des signaux. Après, il y a eu aussi le retrait de la France du NASAN, ce qui, par exemple, en matière de développement. Alors le NASAN, hein, c'est la nouvelle alliance, hein, pour la sécurité alimentaire, qui donc se mettait en place au niveau des pays du Sahel et qui permet, du coup, qui pour nous avait des impacts négatifs, hein, sur les communautés et les populations rurales.
Donc vous avez une écoute, vous estimez que globalement chacun est dans son rôle, mais qu'il y a une écoute satisfaisante, chacun étant dans son rôle.
Il y a une partie très positive, hein, nous sentons que nous sommes entendus. C'est très bienvenu. Il y a sur certains dossiers, il reste du chemin à parcourir. Par exemple, sur la question de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit Yémen, par exemple.
Alors, les ONG ont suscité un engouement. Je me rappelle, il y a quand même une vingtaine d'années, tous les étudiants en géopolitique, en relations internationales, voulaient travailler dans les ONG. Est-ce que cet engouement existe toujours et comment faire pour attirer les talents, les retenir et peut-être aussi qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le choix, parce que une vision, quelqu'un qui vient avec une vision romantique, je veux changer le monde, aurait peut-être quelques désillusions et vous aussi.
Oui, il y a une professionnalisation notable, hein, du secteur sur ces dernières années. Ça reste un secteur très, qui crée de l'appétit, de l'intérêt chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Nous recevons souvent des candidatures de cadres qui sont peut-être 30, 40, 50 ans, qui se disent, qui ont peut-être veulent tourner une page, hein, dans leur vie professionnelle et qui s'intéressent, hein, à l'associatif, hein, qui s'intéressent à l'action humanitaire. Donc pour nous, c'est très bon de rester quand même un secteur qui attire les intérêts. Cette professionnalisation fait qu'effectivement, ce n'est pas un secteur nécessairement romantique. C'est un secteur dur parce que au contact en fait de la misère du monde, des pires crises, et où il y a vraiment un besoin de répondre dans des délais très rapides, avec beaucoup de travail, sous pression, avec des contraintes, hein, parfois aussi qui viennent parfois des bailleurs, hein, qui sont croissantes. Et beaucoup comment, il y a un côté aussi de risque, de gestion de risque très important, en termes de pilotage financier, en termes de ressources humaines, en termes aussi d'adaptation aussi à l'ensemble du secteur. Donc c'est il faut vraiment, je pense, c'est bien d'avoir en tant qu'une expérience, hein, mais les ressources humaines, je pense, c'est quelque chose un peu plus dans la durée, enfin, à voir
Sur
comment.
les ONG, il y a des milliers de métiers. On pense toujours, le grand public pense tout de suite à médecin ou infirmier, alors qu'en fait, la multiplicité des tâches qui sont les vôtres fait que vous avez vraiment toutes les facettes qui sont nécessaires pour votre action.
Ah oui, il y a beaucoup de logistique, par exemple, beaucoup de gestion de programme, beaucoup de métiers. Après, effectivement, bon, ACF, Action contre la faim, est une organisation qui travaille beaucoup dans la santé, la nutrition, tout ce qui est sécurité alimentaire, le WASH, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, toute la question de santé mentale et pratique de soins. C'est vraiment des métiers à part entière. On a des ingénieurs, nous avons des psychiatres, nous avons des nutritionnistes. Enfin, il y a des vrais métiers techniques, évidemment. Il y a le plaidoyer, dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement est un vrai métier, qui se professionnalise de plus en plus. Il y a tout ce qui est suivi des résultats, la mesure des indicateurs de ce qui est obtenu à partir des programmes et de leur mise en œuvre. Donc tout ça sont des exemples qui sont au cœur de nos opérations. Donc
Pendant très
oui.
longtemps, les ONG qui s'occupent du Sud venaient du Nord. Il y a maintenant aussi une multipolarisation du système des ONG. Comment se passe cela? Est-ce que finalement, à l'instar un peu de ce qui se passe avec la perte du monopole occidental sur la puissance en question stratégique, est-ce que l'on observe la même chose sur le plan des ONG et comment s'articule la relation entre les ONG des pays riches et celles des pays qui ne le sont pas?
Ça a été effectivement une des autres tendances lourdes qui ont émergé du sommet humanitaire mondial à Istanbul. C'est ce qu'on appelle la localisation, qui fait référence justement à un changement des relations de pouvoir entre les différents acteurs humanitaires. On parle de plus en plus d'écosystème humanitaire, c'est-à-dire qui oppose en fait un système vertical, rigide, parfois ancien, très top-down, et qui parfois a été comparé à un oligopole, hein, qui est tenu par le système des Nations Unies, le système Croix-Rouge, et puis des grands réseaux d'ONG internationales, et qui s'ouvre du coup aux acteurs nationaux et locaux. Alors, ces acteurs nationaux et locaux, je pense, ne veulent plus être des simples implémentateurs pour les ONG du Nord. Elles souhaitent être des acteurs humanitaires à part entière et réclament leur place. Du coup, Istanbul a obtenu en fait des accords, hein, et des engagements de la part de l'ensemble des acteurs humanitaires de financer jusqu'à 25% des programmes à travers les acteurs nationaux et locaux. Ce qui, en termes de, comment dire, aujourd'hui, on est à 2%, pour vous donner un peu une idée de la marche à monter. Donc ça, c'est vraiment une vraie, enfin, ça pose beaucoup de questions. Par exemple, quelle complémentarité entre ces acteurs? Ou encore, quel rôle pour les ONG du Nord? Puisque un constat qui est clair, c'est que le plus près des opérations, des besoins humanitaires, ça, c'est le mieux. Il y a vrai besoin d'avancer vers ça et donc de se positionner au plus près des besoins humanitaires.
Et ça, vous êtes confiant sur le fait, est-ce qu'il y a, vous assistez à un développement du tissu humanitaire dans le Sud? Est-ce que, en fait, les sociétés civiles dans ces pays se développent? Et donc, normalement, il devrait y avoir également, par capillarité, un développement du tissu des ONG dans les pays où les sociétés civiles se développent.
Nous assistons en fait à une double tendance. D'une part, les sociétés civiles, hein, de beaucoup de ces pays, mais même dans des pays comme la Somalie, je veux dire, où on peut imaginer, il n'y aura peut-être pas de société civile. Il y a des sociétés civiles vibrantes, créatives, très dynamiques, qui sont là, qui prennent tout à fait des formes différentes, hein. C'est très hétérogène selon le pays et c'est pour ça que la contextualisation est absolument importante. Ceci dit, dans beaucoup de pays, ce qu'on voit aussi, c'est une tendance de réduction de l'espace pour la société civile. Il y a des législations nationales qui se mettent en œuvre pour vraiment couper les sources de fonds, pour couper l'espace en fait de réunion, l'espace de comment dire d'association
Oui, de
pour
lutte
ces
contre les
acteurs.
sociétés qui reçoivent des fonds étrangers, alors que c'est l'existence même des ONG d'avoir un financement international. Et donc, dans de nombreux pays, on criminalise le fait de recevoir des aides de l'étranger, ce qui est vu comme une atteinte à la souveraineté.
Absolument. Et ça, c'est une tendance qui nous préoccupe énormément parce que nous estimons que pour qu'il y ait comment dire, des plans de développement nationaux de qualité, il y a un vrai besoin de participation d'une société civile qui soit capable, qui ait l'espace hein, pour pouvoir participer. Et donc, la réponse n'est pas de l'étouffer et d'essayer de la tuer dans l'œuf.
Donc en fait, le combat pour pouvoir parvenir, le combat pour exister, pour pouvoir intervenir, est un combat qui est encore une priorité aujourd'hui parce que même s'il s'est ouvert au niveau des opinions publiques et dans l'acceptation, il y a des endroits où à l'inverse, il se rétracte.
Oui, il y a cette tendance, effectivement, et du coup, ça fait partie aussi de nos agendas de plaidoyer, de faire un plaidoyer auprès des bailleurs, de faire un plaidoyer, il y a des bailleurs qui sont quand même très puissants. Dans certains pays, l'APD représente une partie du budget national très importante, et de faire vraiment plaidoyer pour que l'espace pour la société humaine, pour que l'espace pour la société civile soit respecté et soit encouragé, et qu'il y ait aussi des fonds qui soient alloués au développement des capacités des sociétés civiles dans toute leur richesse et différentes formes d'expression.
Merci Véronique Andrieux pour ce tour d'horizon sur le rôle des ONG et l'action humanitaire.
Merci beaucoup Pascal de votre invitation.